Chers amis, bonjour. Comment allez-vous, chère Julia?
Très bien. Il y a du soleil.
Du soleil, oui, du soleil. D'ailleurs, dans le studio qui est tout neuf, comme l'ensemble des lieux où exerce l'ensemble. Cet ensemble. Nous sommes dans les ensembles, ensembles musicaux, ensemble décoratifs,
ouais.
Ensemble l'équipe. Oui, voilà que Julia. Nous sommes, Ria Babachilovskaya, nous sommes en face là, aujourd'hui, chers amis, d'un double destin. Destin de pianiste et destin de compositrice d'une part, et puis destin de poète, et puis aussi destin de femme et destin franco-russe. Après tout, je suis franco-suisse, donc nous sommes tous à cheval sur les frontières et j'espère que nous allons continuer à les franchir allègrement. Comment est-on... Alors, vous êtes fille de pianiste et de compositeur. Comment s'est fait votre destin? Les parents ont décidé? Comment ça s'est passé?
Ah non, je crois pas. C'est difficile à répondre parce que souvent, on m'interroge à quel âge j'ai commencé à jouer du piano.
Je n'ai pas parlé d'âge, là, j'ai dit comment ça s'est
mais
décidé.
Ce n'est pas par hasard parce que finalement, la musique est venue déjà avant ma naissance. Parce que ma mère, qui a gagné le prix d'un concours comme meilleur interprète de troisième concerto de Rachmaninov, ce fameux concerto, bien sûr, que vous connaissez bien,
oui,
et que je dois jouer dans un mois exactement.
On en profite d'ailleurs, où se joue ce concerto
C'est dans un mois, je dois le jouer à un festival qui s'appelle Festival Franz Liszt en Provence.
C'est très cool.
C'est le 19 avril.
Voilà.
Et en fait, c'est très mystique parce que ma mère était enceinte de 7 mois quand elle a gagné ce concours. Ça s'est passé à Moscou. Donc finalement, j'étais dans une grande salle de concert, le fameux salle Bolshoï de Moscou avec orchestre. Donc elle a joué ce fameux concerto de Rachmaninov. 2 mois avant ma naissance. Donc, finalement, je peux dire que j'ai commencé à connaître la musique avant ma naissance. J'étais déjà sur la scène.
Alors,
c'est commencé déjà par concerto de Rachmaninov.
Cette sorte de patronage. Hein.
Oui, tout à fait.
Et c'est vrai. C'est appliqué quand? À partir de quel âge, enfant? À quel âge vous avez été mis au clavier?
Ah oui, je pense qu'à 2 ans, j'ai déjà ma photo avec ma grand-mère parce que la situation familiale était un peu particulière parce que ma mère est devenue très très jeune soliste philharmonique, soliste. Il avait, je pense, 27 ou 28 ans. Et puis, il est reparti à Moscou pour donner des concerts partout en Russie. Et j'étais avec ma grand-mère, j'étais élevée par ma grand-mère maternelle, qui était d'ailleurs aussi très grand pianiste et pédagogue. J'avais 2 ans quand ma mère elle est partie. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a initiée à la musique. Et c'est avec elle que j'ai fait mes premiers cours de piano. Bien sûr, j'ai entendu beaucoup des élèves qui sont venus aussi à la maison parce qu'elle était enseignante et très, très connue pédagogue en Azerbaïdjan, Bakou. Donc, je me souviens beaucoup d'enfants, familles qui sont venus.
À propos, puisque il se trouve que pour toutes sortes de raisons, j'ai une fille adoptive qui est très liée à l'Azerbaïdjan puisque son grand-père...
Vous avez beaucoup des enfants en adoptif, vous
m'avez dit. Oui, beaucoup, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, merci de m'interroger là-dessus. Donc, son grand-père dirigeait la station spatiale, et donc, bien sûr, c'est très lié à cette région-là. Et de fait, question que je voulais vous poser, que je n'ai jamais posée à qui que ce soit d'ailleurs, vous êtes une Russe d'Azerbaïdjan. Donc, et comment combine-t-on, puisqu'il se trouve que j'ai eu à connaître ces pays, en tous les cas, à travers le Kazakhstan, moi, je parle de la station. Mais finalement, c'est du même ordre.
C'est
du même ordre.
Voisine, ouais.
Voilà, c'est voisin. C'est pour ça que j'en parle. Mm-hmm. Et puis, d'autre part, j'ai beaucoup d'amis arméniens et toute la querelle entre Azéris et Arméniens. Bon, voilà, on est tous plongés de manière internationale là-dedans.
Tout à
fait. Comment est-on à la fois russe et d'Asie centrale? Et puis maintenant, en Europe de l'Ouest, comment arrive-t-on à associer tout ça dans sa propre psychologie, dans son héritage culturel? Enfin, qu'est-on majoritairement? Est-on d'abord de ce lieu qu'est le monde slave? Est-on un tout petit peu du monde mongol ou turc? Ou est-on un peu
oriental,
du monde latin? De quel monde est-on?
Oui, on dirait un peu oriental, mais c'est la question que je me pose souvent. Qui je suis, parce que je suis élevée dans une communauté qui était très diverse sur le plan de ses origines. Et concernant justement de la ville Bakou d'Azerbaïdjan, surtout à l'époque soviétique, c'était une ville très cosmopolite, où il y avait beaucoup des réunions et des groupes de différentes ethniques, notamment les arméniennes. Et puis dans notre famille aussi, il y a les Arméniens, il y a les Juifs de côté de ma grand-mère. D'ailleurs, en Azerbaïdjan, c'était un pays où il n'y avait jamais antisémitisme. Voilà, donc
ça, c'est un peu... ça, c'est la merveille de la...
Oui, tout à fait.
Oui, de la communauté humaine en général.
Tout à
oui.
fait, tout à fait. Donc, dans mon enfance, j'ai vécu presque toujours, pendant l'année, j'ai vu les enfants de toutes les origines dans notre maison.
Donc, langue russe, et mais finalement...
Langue russe, bien sûr, dans la famille, on a parlé russe, ma grand-mère un peu connaissait yiddish. Mais aussi, il faut savoir que l'Azerbaïdjan avait reçu beaucoup de Russes blancs de côté après la révolution de 1917, qui sont partis en Turquie ou en Azerbaïdjan. Donc c'était
oui,
couloir.
D'ailleurs, la Turquie a
justement
été un moyen de passage
oui,
vers
oui,
l'Occident.
Oui, tout à fait, absolument. Voilà, donc surtout le père donc, de ma grand-mère maternelle, qui était d'abord comme officier marine pendant l'époque de Tsar, parce que vous savez, l'Azerbaïdjan, avant de devenir le pays soviétique, était sous empire russe tsariste. Voilà, donc son père, père de ma grand-mère maternelle, il était officier marine et qui était assassiné, malheureusement aussi comme son oncle, congolaisine, déjà pendant l'époque soviétique. Donc pour ma grand-mère, c'était le destin très tragique. Elle a perdu tous les hommes de sa famille, il n'y avait que les femmes qui restaient. Donc sa vie a commencé à zéro. Peut dire comme ça.
Et justement, ouais. C'est une autre question
ouais.
Avant que nous entrions dans cette relation
ouais.
Assez merveilleuse entre la poésie, la musique et un destin.
Ouais.
Finalement, n'est-on pas tous, peu ou prou, l'histoire contemporaine et nous enregistrons au moment où la guerre est un peu partout sur la surface de ce globe terrestre.
Oui. Oui.
N'est-on pas tous nés du drame?
Oui, en quelque sorte.
Et n'est-on pas, à travers l'art, puisqu'il s'agit de poésie, de musique et les autres arts sont tout autour, et est-ce que par l'art on n'essaye pas? Et
ouais,
c'est peut-être
ce que je voulais dire, je sais sûr.
La présence divine en nous qui est l'harmonie.
Oui, tout à fait. Ce que le poète, compositeur ou un artiste essaie de faire, c'est de dépasser, vous voulez dire, en
oui,
quelque
oui.
sorte.
De dépasser
charmant...
et même
oui,
de contenir.
Oui, je vous comprends parfaitement. Oui, oui. Je suis entièrement d'accord avec vous, Pascal.
Et alors, à 2 ans, moi je ne suis entré dans la musique qu'à 4 ans et demi, donc je croyais déjà que c'était assez tôt, mais je vois que c'était
tardif. Vous
étiez
aussi prodige.
Enfin, j'ai été élevé par ma mère pour l'être, mais c'est pas pour ça que je le suis. En tous les cas, la vie est un prodige,
ouais.
hein, honnêtement,
ouais.
et que nous soyons là autour de ce micro, bien, voilà, ça fait partie de ces miracles et de ces prodiges. Mais à quel moment alors la poésie rentre, si pour moi le piano rentre à 4 ans et demi et la poésie rentre quand j'avais 9 ans, vous, à quel âge est rentrée la poésie dans votre vie?
La poésie m'a accompagnée toujours parce que je suis élevée avec ma mère, avec ma grand-mère, avec aussi en partie de mon père que je vis très très rarement, mais qui fait partie du circuit de cercle de Boris Pasternak à Moscou.
Oui.
Il a même été reconnu, il était médaillé de médaille de Pushkin pour ses concerts littéraires et musicaux. Donc la poésie, j'ai toujours adoré depuis mon enfance. En revanche, moi-même, j'ai commencé à écrire la poésie tardivement. J'avais presque 20 ans quand j'écris ma propre poème.
Quel âge
Et comme toujours, par chagrin d'amour, je pense.
Ah, mais
ça commence à cause de ça.
Le chagrin d'amour est une des sources. Je dois dire, je me souviens quand à 17 ans, j'écrivais des cantiques spirituels à la manière de Jean Racine. Alors, ce n'était pas du tout par chagrin d'amour, c'était par exaltation. Je pense que dans la jeunesse, il y a ces deux sentiments. Là.
Tout à fait, parce que je pense que concernant la musique, parce que la musique, je commençais à écrire très très tôt, j'étais très précoce. D'abord, j'ai improvisé et puis mes premières pièces, j'avais écrit à l'âge de 8 ans. Et c'était ma mère qui m'a aidé à écrire sur le papier parce que je ne savais pas même écrire. La musique, j'ai improvisé. Donc, première de pièce, je me souviens, c'était 2 préludes pour piano et une romance justement sur un poème de Pushkin. Donc j'avais 9 ans, c'était toutes mes premières œuvres
Pouchkine,
musicales.
C'est quasiment le fondateur, n'est-ce pas?
Exactement, et tous les Français connaissent parfaitement la poésie de Pouchkine, c'est bien évident.
Bah oui, d'autant plus qu'il nous a laissé un certain nombre de poèmes en français.
Mais vous avez bien posé la question, est-ce qu'on essaie de dépasser le tragique
oui,
de la vie?
Oui.
Je sais que vous n'aimez pas cette phrase que je vous ai peut-être récemment évoquée, que moi je trouve que l'art est suprême à la vie, vous n'aimez pas du tout, vous m'avez dit que vous êtes contre ça. Mais quand même, l'art, vous l'avez confirmé aujourd'hui, l'art quand même nous permet de dépasser les choses.
Oui,
et
alors...
Il nous construit...
Je pense... de vous interrompre d'abord, mais c'est la vivacité de mon tempérament qui m'amène à ça. J'ai une image qui me touche à l'instant, ouais. Comme si c'était une flèche qui marquait le centre de la cible, c'est que l'art se faufile au milieu. Il nous traverse par le milieu, entre le beau et le laid, entre le bon et le mauvais, entre le drame et la joie. L'art, il passe là, et je pense que c'est comme si nous retournions l'arc et la flèche vers nous, et que nous nous laissions presque blessé, non pas à mort, mais à vie.
Ah, c'est très beau. C'est très beau, c'est très poétique.
Oui, mais vous savez que poïen en grec, je le rappelle souvent, ça veut dire faire. Et donc, c'est ce que ça nous fait. Alors, justement, venons à la poésie, car si vous êtes invité dans cette émission, tout à l'heure, nous écouterons trois de vos interprétations de Frédéric Chopin, une autre fois de vos compositions. Dès le moment où nous nous sommes dit que nous allions faire une émission ensemble, vous avez évoqué Ossip Mandelstam. Il se trouve que j'ai déjà consacré des émissions à l'âge d'or et par ailleurs au grand poète russe ici. Et que, bien sûr, là, si j'ai les œuvres complètes de Mandelstam, bilingue, sur la table du studio, c'est parce qu'il fait partie de ma vie. Et j'aimerais que, puisque nos émissions sont bilingues, que vous disiez ce poème que vous avez choisi, que je donnerai en français tout à l'heure. Je rappelle, mais tout le monde le sait, que Mandelstam, suite à une épigramme où il dit à Staline ce qu'il pense de lui, eh bien, est immédiatement arrêté.
Exact.
Et il va mourir. Et c'est un drame que tout le monde connaît. Et je voudrais ajouter ceci, c'est que je viens de perdre... celle que je pourrais dire, non pas la marraine de mes émissions, mais mon amie intime, c'est-à-dire Vénus Kourikhata, à laquelle j'ai consacré récemment un hommage à cette radio. Et Vénus a écrit un très joli roman sur aussi Mandelstam.
Ouais.
Et donc, nous avions fait une émission à ce sujet. Enfin,
Français connaissent bien le Mandelstam, vous savez. Parce
oui, il habite chez lui ici, et grâce à vous, il y revient. Alors, je vous écoute, et je dirai ensuite ce poème dans la traduction que j'ai à ma disposition.
Oui, par exemple, le poème Rome.
Alors, si on peut... Moi, je pensais...
Vous pouvez faire commencer par...
Alors, comme
Ariost,
tout...
magnifique.
Sinon,
за то, что я руки твои, par exemple.
Comme
de
vous...
Dans
Tristia, dans la série Tristia. Et nous irons à Rome et à Ariost après.
Pourquoi
mais
pas.
Voilà.
Pourquoi pas? D'accord. За то, что я руки твои. Не сумел удержать за то, что я предал соленые нежные губы. Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать. Как я ненавижу пахучие древние срубы. Ахейские мужи во тьме снаряжают коня. Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко. Никак не уляжется крови сухая возня. И нет для тебя ни названия, ни звука, ни слепка. Как мог я подумать, что ты возвратишься? Как смел? Зачем преждевременно я от тебя оторвался? Еще не рассеялся мрак, и петух не пропел. Еще в древесину горячий топор не врезался. Прозрачной слезой на стенах проступила смола, и чувствует город свои деревянные ребра. Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла, и трижды приснился мужам соблазнительный образ. Где милая Троя? Где царский? Где девичий дом? Он будет разрушен, высокий прямо в скворечник. И падают стрелы сухим деревянным дождем, и стрелы другие растут на земле, как орешник. Последней звезды безболезненно гаснет укол. и серую ласточкой утро в окно постучится, и медленный день, как соломе проснувшийся вол, на стогнах шершавых от долгого сна шевелится. 1920. Ouais.
Décembre.
Exact.
Pour n'avoir pas su les retenir, tes mains, avoir trahi les tendres lèvres salées, dans l'acropole endormie, j'attends une aube que j'exècre l'odeur de ces vieilles poutres. Les Achéens de nuit, par le cheval, la dent féroce des scies mord la muraille. Rien n'apaise l'émeute sèche du sang. Pas de nom pour toi. Nul son de voix, nul moule. Imaginez ton retour ou le rêver à toi. Pourquoi m'arracher de si bonheur? La ténèbre règne et nul coq n'a chanté. Nulle brûlante hache n'a fendu le bois. Des murs suintent limpides de larmes, la poix. La cité sent la cage en bois de ses côtes. Mais le sang monte à l'assaut sur les échelles et par trois fois un rêve a séduit les hommes. Où sont trois palais du roi, maison des vierges? Il sera détruit le nichoir des Priam, où s'abat la sèche pluie de bois des flèches. D'autres flèches croissent, noisetiers sur terre. L'ultime astre éteint sa piqûre indolore. L'aube, hirondelle grise, frappe à la vitre. Le jour lent, bœuf qui se lève de sa paille, bouge dans les rues roidies d'un long sommeil.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
C'était la deuxième partie de la sonate de Guidon Klein, compositeur qui est mort jeune à l'âge de 24 ans au camp de concentration en Allemagne. Un peu d'esprit scrabinien, je trouve.
Oui, vous trouvez pas tout à fait.
Une illusion.
Tout à fait, mais
qui m'est venu vers la tête.
Plutôt mixte.
Exactement.
À notre interprétation que vous avez donnée à quel moment ?
C'était pendant mon concert récital, donc je donnais à Moscou en 2018. C'était le programme qui s'appelle Le reflet du temps et que j'ai consacré ce programme aux compositeurs qui sont été déportés ou disparus au camp de concentration ou pendant l'époque soviétique. Aussi, c'était des compositeurs comme Weinberg ou Zadieratsky. Compositeur ukrainienne.
Puisque nous sommes en plein voyage, je voulais répondre au poème de notre cher aussi Mandelstam par un poème de Constantin Cavafy, grand poète grec. Et ma culture grecque, là, trouve le tombeau d'Eurione, une très belle traduction. Voilà le poème de Cavafy. Cavafy, quel lapsus, pardonnez-moi, cher man, n'est-ce pas ? Mais enfin, bon, on peut ainsi quelquefois rêver. Dans ce tombeau construit avec grand art, tout entier en pierre de sienne, que recouvre tant de violettes, de lys, le bel Eurion est enseveli. Jeune homme d'Alexandrie, 25 ans, par son père il tient d'une famille ancienne de Macédoine, de ligné d'Alabarche par sa mère. Il fut disciple d'Aristoclite en philosophie, de Parus en rhétorique. À Thèbes, il étudia les textes sacrés. Il écrivit l'histoire d'un homme d'Aristoïte. Cela au moins restera. Mais nous avons perdu le plus précieux, son visage. Qui était comme une vision apollinienne.
Magnifique.
La perte. Tout ce qui m'est perte, m'est gain, dit l'Évangile, et c'est une parole qui m'est très chère. Et à l'instant, nous évoquions ce que nous n'avons pas perdu. Nous, les artistes, nous ne le perdons jamais. Nous sommes tous les uns et les autres, vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie, les enfants de vos enfances. Nous n'avons donc pas perdu ces temps dont nous venons, et que nous contenons, et qui nous contiennent. Et j'ai été très touché lorsque Julia a évoqué auprès de moi Lermontov, et ce poème que nous allons lire à deux voix, en russe d'une part, et en français d'autre part. Dites-moi, Lermontov a atteint votre personne à quel moment ?
Parce que c'était toujours mon poète préféré. J'ai commencé par Lermontov, bien sûr. Mais ce poème donc, que j'ai choisi, il a écrit à l'âge de 13 ans. Et c'est ce qui est incroyable, c'est un poème déjà très, très mature. C'est déjà ce poème qui révèle vraiment son génie à cet âge. Et ce qui m'intéressait toujours, d'ailleurs, non seulement chez les poètes, mais aussi chez les peintres ou d'autres artistes, on connaît très peu d'ailleurs les œuvres de la jeunesse, toutes ces premières œuvres. Je me souviens que j'étais très très fascinée, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une émission consacrée à Pablo Picasso. J'étais fascinée par ses premiers dessins qu'il a fait quand il était encore un enfant. Et c'était déjà absolument génial. On connaît très peu des œuvres. On connaît un peu des œuvres de Mozart, des œuvres de jeunesse.
On
parle toujours déjà des œuvres matures.
Je vous rejoins.
C'est pour ça que j'ai choisi ce poème-là.
Ouais. Il se trouve que j'avais 16 ou 17 ans quand j'écrivais ces poèmes dédiés à Jean Racine, que je n'ai pas encore publié et que je me décide à publier. Et quand je les lis, je me demande pourquoi j'écris encore. C'est toute la grande question de Paul Valéry dans Monsieur Test. Mm-hmm. Ce court texte où il dit « Pourquoi continuerais-je à écrire ? J'ai déjà tout dit très tôt. » Et on continue parce qu'il y a cette pulsion, parce qu'on a besoin et parce qu'il faut continuer. Mais je pense que la source, c'est elle qui conditionne le fleuve.
C'est très bon. Et vous savez, Pascal, pour moi, de toute manière, la créativité, c'est toujours un mystère.
Oui.
C'est un mystère, c'est aussi comme la vie elle-même, c'est un mystère. Donc la créativité, c'est aussi un mystère. Mais j'ai eu de la chance d'avoir des musiciens, des gens illustres qui j'ai rencontrées en cours de ma vie et qui m'ont toujours enseigné le sens de liberté créative.
Et créatrice. Elle est créative et créatrice.
Oui, créatrice, tout à fait. Notamment Albert Lehmann, que j'ai connu quand j'avais 16 ans. Il était déjà un professeur âgé au Conservatoire de Moscou. Et puis j'ai rencontré très, très connu compositeur Edison Denisov, bien sûr, qui est très connu en France, notamment, avec qui j'ai travaillé aussi à l'âge de 17 ans. Et c'était extraordinaire. Ce sont des personnalités à part. Et bien évidemment, ça influence sur toute la vie. Le reste, les rencontres.
Mais ce que je crois, évidemment, je trouve que j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir 6 pères, et je suis dans cette radio, d'ailleurs, à cause de mon 6e père, Pierre Dehaye, qui a fondé cette émission, qui était cofondateur quasiment avec Jean Ferré de Radio Courtoisie. Et j'ai eu cette suite de pères, et puis aujourd'hui j'en suis un, et puis je suis adopté, y compris par d'autres. En fait, on est au milieu du monde, et je pense, et je professe, que l'âge n'existe pas, parce que chaque jour nous sommes renouvelés.
Absolument.
En fait, nous avons été perdus par cette idée mal comprise du progrès. Le progrès, c'est avancer, mais dans le cycle, et non pas par une ligne droite. Et il se trouve que le cycle, ça donne la spirale. Alors, revenons justement à ce Lermontov. Revenons parce que aujourd'hui, il est là présent avec son poème de 13 ans quand Raphaël est inspiré.
Ça s'appelle Poète.
Alors, il s'appelle Poète parce que le premier vers, c'est quand Raphaël est inspiré, mais en fait, le titre est Poète. Et j'ai été séduit par le fait, je vous le laisse lire en russe et je le dis dans, j'ai légèrement modifié la traduction que vous avez mis à ma disposition, mais très peu. Mais voilà, ce sera une première d'une certaine façon. Allons-y.
Avec plaisir, Pascal. Когда Рафаэль вдохновенный, пречистой девы лик священный, живую кистью окончал, своим искусством восхищенный, он пред картиною упал. Но скоро сей порыв чудесный слабел в груди его молодой, и утомленный и немой он забывал огонь небесный. Таков поэт. Чуть мысль блеснет, как он пером своим прольет всю душу. Звуком громкой лиры чарует свет и в тишине поет, забывшись в райском сне. Вас, вас, души его кумиры, и вдруг хладеет жар ланит, его сердечные волнения все тише, и призрак бежит, но долго-долго ум хранит первоначальный.
Quand Raphaël est inspiré, le visage de la très pure Vierge ciselé d'un pinceau vivant. Il admirait son art, tomba devant le tableau. Mais bientôt après la merveilleuse impulsion, sa jeune poitrine s'affaiblit, fatigué et muet. Il avait oublié le feu céleste. Tel est le poète. Dès qu'une pensée traverse son esprit, comme il laisse tomber le stylo, de toute l'âme, au son d'une lyre puissante, sous la lumière enchanteresse, dans le silence chante, perdu dans le rêve céleste. Toi, toi, idole de son âme, soudain, alors, la chaleur de ses joues refroidit, son cœur en tumulte de plus en plus silencieux, le fantôme s'enfuit. Mais l'esprit le conserve pendant très, très longtemps. Premières impressions. Lermontov.
C'est magnifique, c'est très beau.
Et je l'ai disposé, ce que nos auditeurs et auditrices ne peuvent pas voir, distique, tercet, quatrain, parce que je l'ai entendu respirer. La plus belle réflexion qui m'ait jamais été faite à ce micro, j'avais reçu M. Parac, à la fois enseignant, littérature, directeur de revue et poète, et qui m'avait dit, et à l'instant j'ai ressenti la même chose, c'est pourquoi je le cite, il m'avait dit d'une lecture que je donnais, d'un de ses poèmes, vous le dites comme je l'ai respiré. Vous le respirez comme il m'a été inspiré. Mm. Eh bien, effectivement, je l'ai mis en page là, ouais. Comme en le lisant, il m'a été donné de le respirer parce que j'ai senti le battement du cœur de Lermontov. Et c'est là où nous atteignons, grâce à la radio, n'oubliez pas, chers amis, je le dis de temps en temps, que la poésie n'a jamais été faite pour être imprimée, mais pour être chantée. Elle est musique et parole jointes, il n'y a pas de différence, il y a une véritable fusion, hein, et c'est une fusion à chaud comme à froid, il y a ça, n'est-ce pas? Et le micro ici n'est pas un substitut du livre, il est l'origine du livre, c'est bien de ça dont il s'agit. Quand vous entendez la voix humaine, chère Julia, qu'est-ce que la voix fait en vous? Vous, la musicienne et la poète, la femme et la multiculturelle.
Mais vous savez, cher Pascal, mais je pense que le cerveau d'un créateur, de toute manière, de compositeur ou poète, il travaille toujours en permanence. Et une phrase qui est venue très célèbre, d'ailleurs, de Balthus, que vous connaissez bien, d'ailleurs, ce peintre, il était très connu autrefois en France.
Je le connais et extrêmement bien, parce que j'étais l'ami de Nathalie Denoye, qui était sa plus grande collectionneuse. Et, ouais. Et voilà, oui. On peut...
Il a dit très fameuse phrase, Balthus, que je travaille même quand je ne travaille pas. Et c'est-à-dire que le processus,
c'est tellement juste.
Toute immersion, c'est observation permanente. Et moi, ça m'arrive de composer la musique, même à nuit.
Oui, bien sûr.
Et c'est pour cela que je dors très mal.
Oui. Alors moi, je dors très bien, mais très peu. Mais j'oserais dire et suggérer par vous, chère Julia, que non seulement nous ne travaillons pas, nous sommes travaillés.
Exactement, je suis d'accord avec vous, Pascal. Mais...
Parce que, en réalité, et je le dis parce que l'enseignement aujourd'hui a beaucoup évolué et que j'enseigne depuis toujours, et que je me rends compte que ce n'est pas moi qui enseigne, c'est que je crée une espèce de milieu, comme ici, à ce micro, ensemble, un milieu se crée, et nous baignons nous-mêmes dans ce que nous vous offrons, chers amis auditeurs. Et voilà, et nous vous apprenons à y nager. Puisque j'aime beaucoup évoquer les autres poètes dans d'autres livres, hier je recevais, par hasard d'un garçon que je reçois souvent ici, Frédéric Andreux, un livre... Souvent, je reçois des livres, je lis plusieurs centaines de livres de poésie chaque année, évidemment, et d'un poète que je ne connais pas du tout, Gaëtan de Magneval, et voilà, c'est toujours...
C'est en espagnol ?
Non, c'est en français. Et c'est évidemment toujours une surprise, on ouvre un livre, il est ou il n'est pas, mais quelle que soit la qualité, je lis. Et il se trouve que c'est deux saisons au carré, c'est un itinéraire spirituel, et c'est d'une qualité, et surtout, c'est un ton qui est personnel. Et je voudrais, au milieu de nos évocations musicales, et avant une deuxième plage musicale, vous lire ce poème qui me semble aller très bien avec ce que nous avons lu à l'instant de Lermontov, sachant que le cours du livre, c'est justement cet itinéraire spirituel. « Tu es l'eau fraîche qui dort au fond du puits de Samarie. Tu es le mouchoir qui essuie mes larmes, la douleur sur mon visage. Tu es la main dans la nuit qui se tend, qui vient. Tu es celui-là qui commande à la tempête, qui dort dans la barque. Tu es là, sur la plage, en silence. Tu dessines sur le sable. Tu es avec moi. Toi aussi tu as faim. Toi aussi tu as soif. Tu pleures trois fois et tu es fatigué, triste parfois. Tu sais mon cœur, tu connais la trahison, tu restes quand même. Tu n'es ni ici, ni pas là, tu es là tout entier, tu écoutes et tu vois. Tu es l'ami qui joue, qui aime, qui meurt aussi. Tu es ce Dieu qui se fit moi, tout en moi, tu es. Nous voici donc, chers amis, au cours de cette émission que nous consacrons finalement à qui ? Eh bien, à nous tous. Parce que être artiste, c'est appartenir à la communauté humaine. Cette communauté humaine a ses couleurs. Alors, aujourd'hui, bien sûr, elle a les couleurs de la poésie et de la musique, et particulièrement russe. Mais j'oserais presque dire à propos de ce que nous appelons russe ou français ou toute autre langue, à la communauté universelle. Je remets cette notion d'universel, elle est si importante aujourd'hui. Et nous avons là deux poèmes, puisque Mendelssohn est un peu le saint patron de cette émission, telle que Julia l'a conçue, puisque c'est elle, au fond, qui est la maîtresse des lieux. Eh bien, nous allons peut-être passer... Alors, on choisit Rome ou on choisit l'Arioste ?
L'Arioste, j'adore. Ouais, je préfère Parent.
Alors, on passe à l'Arioste, et je lirai ensuite la version française.
Во всей Италии приятнейший, умнейший, любезный Ариост немножечко охрип. Он наслаждается перечислением рыб и перчит все моря нелепицу злейшей. И словно музыкант на 10 цимбалах, не уставая рвать повествование нить, ведет туда-сюда, не зная сам, как быть, запутанный рассказ о рыцарских скандалах. На языке цикад пленительная смесь, из грусти пушкинской и средиземной спеси он запирается, с орландом куролесе и содрогается, преображаясь весь. И морю говорит, шуми без всяких дум, и деве на скале лежи без покрывала. Рассказывает еще, тебя нам слишком мало, покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум. О, город ящериц, в котором нет души, когда бы чаще ты таких мужей рожала, Феррара черствая, который раз начало, покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши. В Европе холодно, в Италии темно. Власть отвратительна, как руки Бродобрея, а он вельможится все лучше, все хитрее и улыбается в крылатое окно ягненку на горе, монаху на осляте, солдатам герцога, юродивым слегка, от винопития, чумы и чеснока и в сетке синих мух уснувшему дитяти. А я люблю его неистовый досуг, язык, бессмысленный язык, солено-сладкий, и звуков стагнутых прелестные двойчатки, боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг. Любезный Ариост, быть может, век пройдет в одно широкое и братское лазоре, сольем твою лазурь и наше Черноморье. И мы бывали там, и мы там пили мед. 1933.
Le froid règne en Europe. En Italie, il fait sombre. Détestable est le pouvoir, comme main de barbier. Oh, enfin ouvrir grand et le plus vite possible sur la mer Adriatique une vaste fenêtre. Autour des roses musquées vrombissent les abeilles. Dans la steppe à midi, la locuste tend ses muscles. Lourds sont les fers. Sous les sabots du cheval ailé, dans l'horloge de sable, les grains jaunes se dorent. Sa langue cigale mêle le charme et la tristesse de Pouchkine à la morgue méditerranéenne, comme le lierre tenace se cramponne et croît, elle folâtre avec Roland sans vergogne ment. Dans l'horloge de sable, les grains jaunes se dorent. Dans la steppe, à midi, la locuste tend ses muscles vers la lune, vole le menteur large d'épaules. Aimable Arioste, renard doublé d'ambassadeur, fougère qui fleurit, voilier, centenaire agave, tu as sur la lune écouté la voix des bruants et fus savant conseiller à la cour des poissons. Oh, la ville des lézards, qu'a déserté son âme de sorcière et de juge, une Ferrare endurcie, enfanta de tel fils qu'elle garda dans les chaînes. Un soleil à l'esprit roux se levait au confins. Des choses nous étonnent. L'échoppe du boucher, le marmotte endormi sous la taie de mouches bleues, l'agneau dans la montagne, le moine sur son âne, les soldats du duc, s'est légèrement demeuré pour cause d'ivrognerie, de peste et d'abus d'ail. Et nous étonne, fraîche comme l'aube, la perte. Il me vient, chère ouais. Julia, en lisant ce dernier vers, que, hélas, il se trouve que mon premier poste universitaire a été la créativité. Enseigner, comme Faulkner m'avait demandé ma directrice des cours au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, d'enseigner qu'est-ce que la créativité. Eh bien, j'ai analysé beaucoup de textes, et notamment les miens, et je sais que je n'écris que pour le dernier vers. Eh bien, il se trouve que vous avez entendu, chers amis, vous réécouterez par le broadcast et par les émissions successives de rediffusion ce texte, et vous verrez que c'est le dernier vers qui donne la clé et nous étonne fraîche comme l'aube la perte. Mmh. C'est là que réside la clé de la tragédie, car c'est une résidence, une clé est déposée là, qui nous dit, et au fond, c'est peut-être tout l'esprit russe qui est dans cette idée, la perte.
Tout à fait. D'ailleurs, pour ce poème-là, je précise que c'était écrit en 1933, et quand Mandelstam, il a voyagé avec sa femme Nadejda Mandelstam à Crimée, et ils ont été logés chez son ami écrivain qui s'appelle Green. Donc c'est à cette époque-là qu'il a écrit ce poème. Et Nadejda Mandelstam, il a rassemblé beaucoup des œuvres de Mandelstam après sa mort, donc nous devrions beaucoup à elle, aussi pour la mémoire de ses œuvres.
Oui, je dirais qu'elle a maintenu et elle a vaincu la mort.
Oui.
Et elle s'est donnée elle-même, tout entière. Il nous reste 6 minutes 06, 05, 04, 03 et ainsi de suite. Voilà. Et alors, peut-être pourriez-vous, on va peut-être...
La muse de Akhmatova.
Eh bien voilà, on va laisser Rome. Vous lirez Rome, c'est très important de Mandelstam, parce que c'était un autre choix de notre amie Julia. Mais avant la dernière plage musicale, voilà, ce poème...
D'Anna Akhmatova qui s'appelle La Muse. C'est l'un des préférés que j'ai lu quand j'avais 20 ans, justement.
Et que je vous laisserai lire.
J'étais fascinée par ce poème.
Et en russe et en français, car il faut qu'on entende aussi votre voix en français.
Ah oui, si je le trouve. Vous m'avez prise en piège.
On ne dit pas en piège, on dit au piège, mais c'est bien vous soyez prise en piège. Eh bien, c'est très, très joli et on pourrait faire évoluer la grammaire française.
J'ai toujours les erreurs.
Non, absolument pas, absolument pas. Je vous en prie, allez-y.
Akhmatova, la muse. Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю, ты ль Данте диктовала страницы ада? Отвечает я.
Il est évidemment très, très court. Et donc, en français, peut-être, pouvez-vous le dire? Ou est-ce qu'on doit attendre qu'un autre temps soit donné pour que vous le lisiez? Tenez, le voilà. Il est ici. Je vous le laisse
avec
lire.
Avec un grand plaisir. Alors, la muse.
Dans la nuit. Vous l'avez... Je vous l'ai donné.
Quand dans la nuit j'attends sa visite, ma vie semble arrêtée. Et vraiment, que son horreur, jeunesse ou liberté, devant cet ami si cher qui tient une flûte. Voilà, elle entre. Elle rejette son voile et me regarde longuement. Je dis, est-ce que toi qui as dicté au Dante les pages de l'enfer? Et elle me répond, c'est moi.
C'est comme la perte tout à l'heure.
Il a écrit à l'âge de 30 ans, Akhmatova. Il était encore jeune poétesse.
J'ai une véritable dévotion à l'égard à Martova. Et merci infiniment. Une dernière place musicale. C'est, qu'avez-vous choisi? C'est encore un Chopin, je crois, non?
Je crois.
Alors, dernier, nous allons nous quitter sur cette plage musicale. Merci infiniment. Vive la poésie. Et surtout, merci d'être là. Et à tout bientôt, chers amis. Merci, merci. À vous. Dire simplement vive la poésie et merci à vous tous de l'aimer autant que nous et que Claudia qui a enregistré cette émission.
Vous venez d'entendre Promenade des flâneries au domaine de poésie dirigée par Pascal Payen à Penzeller, émission préenregistrée le 12 mars 2026, diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 13 mars de 10h à 11h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.